et ce sera une protection contre l'adultère. Alors, ce qui est frappant dans Corinthiens 7, qui aborde ce sujet sans la pruderie qu'on met indûment derrière parfois, c'est la réciprocité. Regardez, j'ai essayé de le disposer sur l'écran. Que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, de même aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari. De même aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Et la conclusion, ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit d'un consentement mutuel, pour un temps, et pour vous appliquer la prière. Et ensuite, vous vous trouvez de nouveau ensemble afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incapacité à vous maîtriser. Vous voyez toutes les précautions que met Paul, il dit, normalement, vous êtes ensemble et vous disposez du corps de votre conjoint. De sorte que les relations intimes, c'est un moment à vivre pleinement, avec action de grâce. Est-ce que vous avez remercié Dieu de nombreuses fois pour ce domaine de notre vie, ce cadeau de la sexualité que Dieu a fait à l'homme, qui, quand il est vécu dans le cadre protégé du mariage, est un bonheur magnifique. Et c'est une source de satisfaction que ceux qui butinent constamment à la recherche d'une aventure après l'autre ne connaissent pas. Et grâce à Dieu qui nous l'indique dans sa parole. Cela étant, il y a des limites aussi dans la pratique, je ne rentrerai pas dans les détails dans ce cadre-là, bien entendu, que le lit conjugal soit tenu sans souillure, ça s'applique bien entendu face à l'adultère, mais ça s'applique aussi par rapport à des pratiques, il faut que l'un soit d'accord avec l'autre aussi. Voilà, et puis si je suis attiré par un autre, comme dans la première partie, reconnaître que l'attirance est naturelle. Mais attention au second regard. Premier regard, naturel, mais le second regard, ce que le Seigneur dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, oh, celle-là, je la mettrais bien dans mon pieu. Eh bien, ça, non. Ça, il a déjà comme commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, je crois qu'il est important d'examiner lucidement les raisons de mon attirance, sans oublier les conséquences. Et elle est forte, cette question de Proverbe 5. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui va te motiver? Parce qu'elle est mieux physiquement, mais pourquoi? Regarde, qu'est-ce qui risque de se passer? Des étrangers vont se rassasier de ton bien, ton travail, tu vas gémir, ta chair et ton corps se consumeront, et pensez au sida, hein, on peut le voir en filigrane derrière, et que tu ne dises, mais comment ai-je haï l'instruction? Et mon cœur a méprisé la répréhension, comment n'ai-je pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient, ni incliné l'oreille vers ceux qui m'enseignaient? Comment? On voit ce fils de la sagesse qui a fait une bêtise et qui est catastrophé, qui se dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Alors on sait que le Seigneur est plein de miséricorde et parfois il permet des relèvements, des pardons, des choses, mais néanmoins ça reste. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'amener en plus? Ça t'a amené beaucoup, sans doute, beaucoup plus de peine et de tristesse que de joie. Pourquoi, mon fils? Alors, nous sommes invités à éviter les situations équivoques. Et en particulier, aujourd'hui, c'est très facile. Ah, on surfe un peu sur un site porno. Oh, porno soft, hein. Voilà, juste une petite image comme ça. Et puis, on se laisse avoir. Puis, on a des cassettes. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dramatique, vous savez. Il y avait une émission, quelques mois, sur un documentaire sur, justement, la façon dont ces industries pornographique se développer et on voyait une famille où, heureusement, il ne montrait pas l'image, ça valait mieux, mais il montrait une mère qui regardait une cassette porno avec ses enfants. Mais ça nous a fait une peine énorme. Vous savez, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Comment au collège on apprend l'amour? Eh bien, en regardant des cassettes porno. C'est vrai de 80 ou 90% des jeunes aujourd'hui. Alors on peut dire, non, je ne veux pas rien savoir de tout ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et pourtant, qu'est-ce que ça présente? Une idée complètement fausse, où la femme est érigée en objet, où c'est la consommation, où c'est la performance. Mais foin de la performance. Excusez-moi d'être très direct, être avec l'autre déjà, construire une relation dans la durée, ça permet d'avoir un bonheur ensemble infiniment supérieur. Donc faisons beaucoup attention à Internet, à tout ça. Puis les seuls à seuls, il faut éviter les situations équivoques. Bon, alors après, chacun a un peu son degré, on n'a pas forcément tous le même, mais il faut qu'on puisse dire à son conjoint, je pense qu'une bonne règle, c'est de, est-ce que je peux raconter à mon conjoint tout ce que je vis? Voilà, est-ce que je peux lui parler? C'est vrai que professionnellement, ça m'arrive assez souvent de devoir déjeuner, par exemple, avec une collègue ou avec un correspondant de mon travail. Bon, voilà, on déjeune seul à seul, mais j'en parle avec Anne en totale liberté, en totale transparence. Et ça donne confiance. Et si on commence à cacher, ça, je ne vais pas trop en parler. C'est le mauvais chemin. Le dernier point, il est très important, me semble-t-il. Comment concilier vie de couple, vie de famille, vie professionnelle et vie d'église? Il y a des équilibres qui sont importants à garder. Je vais mettre ma vie de couple comme une priorité dans ma vie. Avant ma vie de famille, avant ma vie professionnelle, avant ma vie d'église. Pourquoi ? 1 Timothée 3, verset 5. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? La première caractéristique qui était requise d'un surveillant, pour qu'il puisse, avant qu'il puisse servir dans l'Église, c'était mari d'une seule femme. Et on peut comprendre cette expression de façon diverse. Mari fidèle, mari attentionné aussi. Et là, Paul dit bien à Timothée, pour checker, pour voir si quelqu'un est bon pour la surveillance, regarde comment ça se passe dans sa famille, regarde comment ça se passe dans son couple. C'est fondamental. Est-ce que vous avez envie, quand vous êtes marié, de passer du temps l'un avec l'autre, de construire? Parce que la vie du couple, ça prend du temps. Allouer un budget temps. Aujourd'hui, on est tout le temps à courir, on a un budget temps limité. Est-ce qu'on est d'accord d'investir dans sa vie de couple? C'est un investissement à faire, et c'est un investissement qui est durable. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos enfants pour la vie de famille, beaucoup l'ont dit, le meilleur cadeau que je puisse faire à mes deux filles, c'est d'aimer leur maman. Je peux leur offrir tout ce que je veux, eh bien, si j'aime leur maman, eh bien, je leur ferai le plus gros cadeau. Et vous savez, nos enfants, ils grandissent avec la hantise que leurs parents divorcent. Moi, je n'ai pas eu cette hantise que mes parents divorcent. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est tellement répandu, parfois quand on échange un mot légèrement plus haut que l'autre, devant Lucie, elle nous dit, mais oh, arrêtez, parce que j'ai peur que vous divorciez. On lui dit, bah, attends, arrête quand même, parce que c'est pas parce que... Elle ne dit pas ça pour rigoler, c'est présent. De sorte que le plus beau cadeau que je puisse faire à mes filles, c'est d'aimer leur maman. Et le plus beau cadeau qu'elle peut leur faire, c'est d'aimer leur papa. Parce que c'est comme ça qu'on va construire solide. Bon, c'est un autre sujet, j'ai l'occasion de traiter par ailleurs la pyramide chrétienne, je ne m'attarde pas là-dessus, mais la question reste posée. Est-ce que mon mariage est pour moi une priorité? Est-ce que c'est une priorité dans ma vie? Ou au contraire, ma priorité, c'est plutôt mon boulot, c'est plutôt mon service dans l'Église, ou au contraire, mon mariage, c'est pour moi une priorité fondamentale dans ma vie. Parce que les choses ne viennent pas tout seules. Ce n'est pas parce que vous êtes tous les deux en communion, que vous avez été mariés par le frère un tel dans l'Église d'un tel, et que tout va forcément aller sur des roulettes pour les 50 ans qui viennent. Ça, c'est illusoire. Les forces antagonistes sont très importantes aujourd'hui. C'est un défi, la persévérance. C'est un défi beaucoup plus important qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, eh bien, la durée moyenne des mariages, par exemple au Moyen-Âge, elle a été estimée entre 11 et 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient jeunes, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, il y avait des hommes qui mouraient à la guerre, de sorte que la durée moyenne d'un mariage, c'était 11 ou 12 ans au Moyen-Âge. Aujourd'hui, si on se marie en moyenne à 29 ans, l'espérance de vie moyenne étant à 78 ans pour les hommes, ben faites le calcul, ça fait 50 ans de mariage, en moyenne. 50 ans contre 12 ans. Donc c'est vraiment un défi. C'est-à-dire que ceux qui se marient ici, ils savent qu'en moyenne, ils ont signé pour 50 ans. J'espère que ça vous fait sourire, que vous n'êtes pas là à dire « Oh là là, zut, si j'avais su !» Mais non, c'est joyeux, 50 ans. Comme je disais à la pause à certains de nos amis, on a reçu beaucoup de lettres quand on s'est marié, mais la plus belle des lettres, de très loin, on l'a reçue d'un couple qui devait avoir entre 45 et 50 ans de mariage à l'époque, et il nous a écrit une lettre dans laquelle il nous disait que ça n'avait cessé de grandir depuis le début. Et on les connaissait un peu, et on savait que c'était vrai, mais vraiment vrai. Alors moi, j'en connais des couples comme ça. J'ai connu un couple qui, pourtant la femme était vraiment malade à la fin, eh bien, ils se sont aimés tendrement jusqu'au bout, après 63 ans de mariage ou un truc comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a envie de cela? Est-ce que vous voulez être des modèles? Est-ce que ça veut être une priorité? Parce que vous savez, on peut ruiner un service chrétien avec un couple qui marche mal. On peut le ruiner complètement. Par contre, quand on voit un couple qui marche bien, eh bien, ça donne la crédibilité. Je veux dire, comment je pourrais vous présenter ce sujet cet après-midi si ça n'allait pas bien avec Anne? Ce ne serait pas possible, ou sinon je serais un menteur, un hypocrite. Par la grâce de Dieu, il nous a soutenus jusqu'à présent et on compte sur sa grâce pour continuer. Mais il faut vraiment en faire une priorité. C'est fondamental pour la vie de famille, c'est fondamental pour nos églises, parce que combien de problèmes dans les églises aussi naissent de problèmes de couple qui sont ensuite transportés. Alors en conclusion, défi de la persévérance. Encore un domaine sous forte pression. Et c'est une marche par la foi jour après jour. Alors, trois versets pour terminer. Persévérer dans la foi. Oui, je fais confiance à Dieu parce que j'ai foi en lui qui veut, dans sa grâce, soutenir mon mariage, m'aider à passer au travers des difficultés, des tensions inévitables qui peuvent exister, parce qu'il y a sa grâce qui est là. Dieu est fidèle et c'est par la foi que nous sommes debout. Si par la grâce de Dieu ici, il y a des mariages heureux et j'en connais, je ne connais pas tout le monde ici, mais je connais un certain nombre de couples et je sais qu'il y a des mariages heureux. Eh bien, Dieu a été fidèle. Et Dieu sera fidèle. Il peut être fidèle pendant 50 ans, 60 ans, plus au-delà. Et nous pouvons compter sur sa grâce dans ce domaine-là comme dans tous les domaines de notre vie.